Nous sommes le dimanche 23 septembre et vous écoutez le 34e épisode Face B de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous présente des jeux de société sur table et sur écran.
Et Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android.
Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. Salut les joueurs, salut les joueuses, salut François.
Bonjour à tous.
Salut
et
Olivier.
Et salut Jérémy.
Ah, quand même.
Ça manquait.
Ah bah oui, t'as 12 voix.
Et aujourd'hui, on va surtout vous parler de Room 25, puisque François en est l'auteur, le papa, le géniteur. Il va nous expliquer un petit peu la genèse de son jeu, l'historique. Et puis, il va essayer de vous allécher pour sa sortie à Essen 2012.
Enfin, 2012, enfin, oui. Enfin.
C'est pas 2025, ça va.
Non, j'espère pas.
Alors pourquoi tu dis enfin ?
Oui, c'est une longue gestation, comme probablement souvent pour les premiers jeux.
9 mois.
Ça doit dater de 2005-2006, les premières idées.
Ah oui, quand même.
Oui. Donc c'est mon premier jeu édité. Et en fait, ça part d'un film. Un film que j'avais vu il y a de ça pas mal d'années. Le fameux film Cube, qui a beaucoup plu d'ailleurs aux joueurs. Hein. On trouve souvent des gens qui l'ont vu.
Tu peux dire, ça dérange si je dis que je n'aime pas ce film ?
Non, ça me dérange pas.
Tant que t'aimes le jeu.
Non, j'ai aimé l'idée, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont très gratuites. Et ils auraient pu pousser un peu. Enfin, c'est un peu trop action et il y a des belles idées au niveau psychologique, mais ils vont pas assez loin.
Bref. Ouais, c'est un film qui est original en fait et
dont
les gens conservent un souvenir assez fort. Je parle du premier volet, hein, les autres.
Elles ont fait d'autres.
Il y en a eu 3, mais franchement, je conseille pas les autres.
Ah oui, non. C'est comme Blair Witch.
Et donc ce film. Redonne, enfin moi en tout cas m'a beaucoup inspiré pour l'ambiance du jeu et ce côté paranoïa qui me plaît beaucoup.
Peut-être donner le pitch du film.
Oui, le pitch c'est des gens qui se réveillent dans un cube, donc dans un espèce de grand bâtiment. On est dans la science-fiction, donc il faut imaginer un cube un peu futuriste dans lequel plusieurs individus se réveillent comme ça et sont enfermés.
Donc ils sont dans une salle.
Sans explication,
carré,
dans une salle un peu étrange, cubique, avec 4 portes. Et donc des possibilités d'explorer, mais une exploration assez dangereuse.
Mmh. Assez dangereuse.
Et donc c'est cette histoire de d'équipe et de coopération à risque, on la retrouve dans le jeu Room 25.
Alors à risque, c'est quoi le risque ? C'est les autres ou c'est le cube ?
Alors les deux, l'agression des adversaires est possible dans certains modes de jeu, puisque
mais attends,
c'est un
mais
jeu plusieurs modes.
T'es en train de dire que c'est coopératif, mais pas que ?
Mais pas que,
ouh,
mais pas que.
Alors ça, on en a déjà parlé.
Ça, c'est le concept qu'on recherche depuis longtemps.
Bah oui, ouais, c'est tu gagnes ensemble, mais tu peux gagner tout seul, et ça c'est cool.
Alors tu peux pas gagner tout seul, il faut s'échapper à plusieurs.
Tu peux pas éliminer les autres ?
Et on est dans du semi-coopératif. Pour être plus précis, il y a 5 modes de jeu. Donc il y a effectivement un coopératif pur, un mode solo pour les gens qui ne trouvent pas d'autres joueurs, qui n'ont pas d'amis.
Et ils auront la version tablette.
Oui, il y aura la version tablette, j'espère. Et puis les modes, je dirais, qui vont le plus exciter, je pense, les auditeurs de Proxy Jeux, c'est le mode suspicion, où là on a un à deux traîtres cachés dans l'équipe, selon à combien de joueurs on joue.
Et à combien de joueurs ça se joue ?
Alors ça se joue de 1 à 6 et en mode suspicion de 4 à 6.
C'est bien, c'est bien parce que c'est rare les jeux où on joue à 5-6.
Voilà, après tu voulais gagner tout seul Olivier, il y a le mode compétition où effectivement tu peux jouer, donc chacun joue 2 personnages et donc tu peux affronter les autres. Et là c'est chacun pour soi.
Donc là ça joue 4-3 par contre ?
Oui, de 2 à 3 pour le mode compétition. Après il y a un par équipe, donc ça fait 5 modes de jeu si vous comptez bien. Le par équipe, le principe, c'est 2 équipes qui s'affrontent. Alors, soit à 4 joueurs, donc 2 contre 2, ou soit à 6 joueurs, 3 contre 3. S'il y en a qui se sentent plus à l'aise que d'autres, on peut imaginer à 5 joueurs, 3 contre 2, mais c'est à vos risques et périls.
Donc, l'avantage, déjà, c'est que tu as un jeu qui est formaté, enfin, qui est marqué sur la boîte 2 à 6 joueurs, et il y a des modes qui correspondent à chaque nombre de joueurs.
Oui, c'est de 1 à 6 joueurs, mais j'irais le système, le mécanisme est le même, avec des petites particularités selon les modes.
Quelle durée de partie ?
Alors on va sur des parties qui vont tourner autour de 20 à 30 minutes pour les joueurs qui une fois qu'on s'est joué.
Mm-hmm.
On peut aller jusqu'à une heure si, euh, si les joueurs parlementent beaucoup, en fonction un petit peu des gens autour de la table, du nombre de joueurs à 6, on va plutôt être sur une petite heure.
On négocie ?
On peut négocier, on peut s'exprimer sur ce qu'on a vu, et donc on peut bluffer, et donc ce genre d'échange peut durer.
D'accord.
Tu nous présentes un peu, peut-être, le jeu ? Parce qu'on parle des échanges, etc. Mais...
Le but du jeu, c'est de s'échapper de...
Alors, le but du jeu, donc, Room 25, comme son nom l'indique.
Voilà, pourquoi 25 ?
On est dans un complexe qui fait 25 salles. Donc, on est dans un carré. On n'a pas pu faire un cube pour cette première édition. On verra à l'avenir.
Avec des lunettes 3D, ça ne marchait pas ?
Voilà, peut-être à l'avenir. 25 salles, donc, en forme carré. Et une de ces 25 salles est la sortie.
Ok.
Alors en même temps, on regarde le proto, hein. C'est un proto encore. Hein. Enfin, c'est pas un proto, c'est un pré-tirage.
C'est un proto final, ouais, tout à fait. Ouais,
donc vous allez nous entendre avec Olivier, on triture le jeu.
Oui, c'est pas les cacahuètes, c'est le jeu.
Alors il n'y a pas que Room 25 qui m'a inspiré dans l'esprit du cube. Jeu et dans l'esthétique.
Cube, il n'y a pas on que Cube chercher... qui t'a inspiré.
Il n'y a pas que Cube, pardon. il y a également des films comme Running Man, par exemple. Hein. On retrouve cette notion de Real TV futuriste où les gens peuvent mourir. Et puis, le film Tron, où j'aime beaucoup l'esthétique de Tron, et vous allez le retrouver, je pense.
Tron Legacy ?
Non, Tron, le film.
C'était un
oui,
troll.
Tron Legacy et le premier Tron également. Ouais. Et donc, vous allez le retrouver dans le style des salles et, je dirais, la mise en page des règles. On est dans du futuriste, science-fiction, Je vous laisse découvrir les personnages qui peuvent faire référence à certains films.
Donc, des tuiles qui ne sont pas très grandes. Donc, est-ce qu'il faut de l'espace pour pouvoir jouer à ça ou...
Non, justement, la volonté aussi de l'éditeur Matago qui a remporté le challenge, qui a sélectionné le jeu.
Ah, t'es comme ça, du challenge des éditeurs, toi. Qui a cette chance.
non, qui a accepté au contraire de m'éditer. A préféré donc un format assez petit, dont on est dans le format action de Matago, des éditions Matago, un peu comme Shadowhunter. Donc avec une boîte qui s'ouvre en livret.
Et qui n'est pas très grande. C'est l'avantage, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Voilà, ce qui permettra d'avoir un coût assez modique. On s'approchera de 25 euros environ en magasin.
Ah, ça c'est bien ça.
Des belles figurines donc personnalisées pour mettre dans l'ambiance. Et puis 32 tuiles, donc... vous l'aurez compris, vous pouvez personnaliser la difficulté du jeu, puisque il y a 25 tuiles.
Parce que là, tu m'embrouilles. Là. T'es en train de m'embrouiller. Oh, 32 tuiles, room 25. Ok. Donc, oui. Quand même une rejouabilité. Ok.
Tu choisis au hasard les tuiles, ça ?
Pas au hasard, il y a un conseil de configuration en fonction du mode de jeu. Et après, en fonction des desiderata des joueurs, si on est avec des débutants, on va plutôt mettre plus de salles vides. Si on est sur un mode
des
expert,
salles vides.
C'est plus risqué.
Des salles vides.
Il y a des salles vides où il ne se passe rien, on respire un coup, mais pas beaucoup.
Donc c'est vrai que pour donner une idée, les tuiles elles font quoi ? 5 cm à peu près ?
Ouais,
je crois que c'est du 6 sur 6.
6 sur 6, voilà. Donc oui, c'est l'avantage d'avoir un plateau du coup que tu pourras quasiment jouer dans le TGV. Quoi.
On peut jouer sur le TGV, ouais, j'ai déjà essayé avec mes enfants.
Ah, ça c'est bien. Ça c'est le format que j'aime bien moi, tu vois. Ouais, sur les placements A4, mais c'est parfait quoi.
Bah, c'est du 30 sur 30 hein, une fois que c'est mis en place. Après, il y a les aides de jeu qui sont des petits plateaux avec l'explication des salles et qui prennent pas non plus beaucoup de place.
D'accord. Je vois d'autres marqueurs, mais ça peut-être on en parlera tout à l'heure. Donc des tuiles, des petites figurines faites par les petits chinois avec du pétrole.
Non, c'est pas du chinois.
Quoi ?
Les figurines viennent de Chine, mais le reste d'Europe.
François, tout à l'heure, me disait que les jeux n'étaient pas faits en Chine. En fait, si, les figurines.
Assemblées. Mais de toute façon, personne ne fait de figurines à part les Chinois. Assemblées en Europe, ok. Ok. Et donc, le but du jeu ?
Le but du jeu,
ça dépend, ça va être un peu compliqué d'expliquer le but du jeu.
Non, mais
ça peut être les buts du jeu.
Bah, les buts du jeu, donc déjà survivre, puisque comme vous l'avez entendu, il y a des pièges, donc on peut mourir. C'est un jeu, on peut se faire éliminer. Dès qu'il y a deux éliminés, prisonniers éliminés, le jeu s'arrête. Donc on est sur un format quand même où on n'a pas trop de frustration.
C'est la question que j'allais te poser. Il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas les jeux à élimination directe en fait.
Oui, j'ai pas eu trop ce retour dans les parties test qu'on a pu faire sur les salons ou dans les bars ludiques. En fait, les gens, comme la partie n'est pas longue, c'est assez immersif. Même les gens qui se font éliminer ont envie de suivre ce qui va se passer et de voir si leur équipe gagne.
Et puis, ils sont pas éliminés pour deux heures.
Et en général, ils veulent prendre leur revanche, donc il y a souvent une deuxième partie.
Ah, c'est bien, c'est une bonne ambiance autour de la table. Si vous voulez une bonne ambiance, jouez à Room 25. Ok, donc les mécanismes, c'est je suis dans une salle, je choisis gauche, droite, devant, derrière.
Ouais, là on est sur un jeu, on va dire pour les puristes, c'est un jeu de programmation.
Ah.
Un petit peu comme les dragons du Mekong qui ressort chez Matago également.
T'es corporate, toi.
Programmation. Programmation, et puis y a un petit peu de mémoire, mais très peu, puisque quand on regarde une salle, on la regarde secrètement, donc elle n'est révélée que quand on pénètre dans la salle. Voilà, donc il y a une petite mémorisation, avec une petite option quand même de mettre une balise mémorielle pour se souvenir où se trouve la salle qu'on a regardée. Alors Room 25, comment ça se joue ?
Ouais.
C'est un jeu déjà qui se joue en 10 tours. Donc il y a une notion de temps limité. Et donc à chaque tour...
Tu veux dire qu'on peut tous mourir ?
On peut tous perdre, absolument. Le jeu peut gagner.
C'est
ça
bien
arrive.
Ça. C'est bien.
Et donc à chaque tour, on va pouvoir donc, programmer 2 actions parmi 4 proposées. Alors les actions sont relativement simples et le jeu s'apprend très vite. La première action, c'est de regarder une salle adjacente, secrètement, sur laquelle on pourra quand même indiquer un niveau de dangerosité. Alors, soit de dire que c'est une salle verte, donc sans danger. Une salle orange, c'est plutôt un obstacle qui va ralentir le groupe. Ou une salle rouge, un danger mortel avec risque d'élimination.
Mais là, tu peux bluffer dans certains niveaux de
Tu peux bluffer,
jeu.
Mais voilà, après, tu assumes ton bluff.
Vous l'aurez compris, moi, je veux jouer hardcore. non, allez-y, il n'y a pas de problème. Passe devant, toi.
Voilà, après...
J'ai plus d'action.
Après, les équipes se forment assez vite et la suspicion
s'installe.
Et voilà, est fréquente. Donc, on regarde une salle, on la repose face cachée. Et donc, c'est une salle adjacente, bien sûr, à la salle où on se trouve. La deuxième action possible, c'est de rentrer dans cette salle. Et là, on la révèle à tous. On rentre dans la salle et on applique l'effet de la salle à son personnage. Avec des effets parfois sympathiques.
D'où l'intérêt de dire vas-y, c'est vert.
Voilà. Alors très souvent, quand on est dans un comportement à la Olivier, on va préférer pousser quelqu'un plutôt que d'y aller. Donc ça, c'est la troisième action.
Ah bien.
On peut pousser.
Ouh, j'ai regardé, elle est bien la salle. Je te pousse, hein, vas-y.
On peut pousser. Alors soit un ami en espérant qu'il ait fait une bonne action en coordination, soit un ennemi ou quelqu'un qu'on juge être un ennemi. Et donc, on applique l'effet de la salle au personnage qu'on a poussé.
En fait, ton jeu me plaît beaucoup. Expliqué comme ça, ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire, ça manque un peu de perversion, les jeux de société.
C'est un jeu sans concession.
C'est pas un jeu allemand, tu vois. C'est pas un jeu, on est tous potes.
La thématique est forte, et ça, c'est ce qui est apprécié en général. Et la dernière action, donc la quatrième action possible, elle est un tout petit peu plus complexe. Vous allez retrouver des mécanismes qu'on trouve chez Grand Labyrinthe, par exemple. C'est une translation, c'est-à-dire que vous allez déplacer la rangée dans laquelle vous vous trouvez, dans la direction de votre choix. Alors ça oblige les joueurs à être un petit peu plus vigilants à ce qui se passe et à se souvenir des salles un peu dangereuses et de leur emplacement. Et c'est ce qui
on
fait...
On peut faire des marques sur le verso de la tuile pour se rappeler.
On ne peut pas faire des marques, mais on peut poser une balise. Ouais. Et on n'en a qu'une par joueur, donc il faut bien choisir où est-ce qu'on la pose. Voilà. Voilà sur les 4 actions.
D'accord. Donc une heure. Un jeu un peu d'enfoiré si on choisit de l'aborder comme ça.
Il faut choisir, c'est mon partenaire.
Un jeu coopératif si les gens qui sont autour de la table ne comprennent pas les jeux d'enfoiré. Ça arrive. Un jeu avec des configurations multiples.
Tu le calibres pour quel âge ?
Alors,
question bête, mais tout à l'heure, on parlait de... Enfin, dans l'épisode précédent, on parlait de Island, Survive, tout ça, The Island. Là, pour jouer avec des enfants, c'était un petit peu chaud, non ? C'était 10-12
ans. Alors, moi, j'arrive à faire jouer mes enfants qui ont 6 et 9, mais il faut reconnaître que pour avoir toute la compréhension et la subtilité du jeu, il faut plutôt avoir 10 ans minimum.
Ouais, c'est ça.
Avec en plus une thématique qui est quand même un petit peu agressive. Il y a des bains d'acide, il y a des choses un petit peu violentes.
C'est bien, ça leur apprend.
Ouais.
C'est le bon âge pour parler de bains d'acide. Très bien. Et donc, oui, alors donc est-ce que la sanction est immédiate ? C'est-à-dire tu rentres dans une salle et tu meurs ? Ou alors comment tu fais la gestion des blessures ?
C'est trop souffrance.
Ouais. Non, en fait,
je souffre beaucoup. Alors, sur une échelle de 0 à 10, combien est-ce que vous souffrez ?
J'ai toujours voulu avoir un format assez court et je ne voulais pas rentrer dans un type de jeu avec personnage à point de vie. Donc, la sanction peut être assez violente. Il y a une salle mortelle, effectivement. On rentre, on est éliminé, au revoir.
Une sur 32 ?
Il y en a 2 sur 32, puisqu'elle est présente en 2 exemplaires. Après, il y a plusieurs salles où si on reste dedans, on va mourir ou on va être pénalisé. Donc,
ça fait partie des obstacles dont tu parlais.
Exactement. Y a des salles qui se referment, c'est-à-dire quand plus personne ne peut y accéder, donc ça fait un obstacle. Et donc, ça va ralentir les joueurs pour trouver la sortie. On a des salles qui empêchent de programmer certaines actions, donc une salle qui est une chambre noire où on ne peut pas faire l'action voir une autre salle à côté. Voilà le type d'effet qu'on peut avoir. Et c'est vraiment un jeu qui est propice à de multiples extensions derrière ou des goodies. Oh.
Chut. C'est une idée à l'éditeur, mais pas à nous. Il y aura des goodies, Aïssan ?
Pas cette année, mais l'année prochaine, on l'espère.
Quoi ?
Oh. Oh là là là.
Alors moi, j'ai une question. Pourquoi la petite fille, on va parler des personnages, pourquoi la petite fille a un bras robotique ? Est-ce que c'est la fille de Cobra ou...
Est-ce que c'est son bras gauche ?
Non, c'est son bras droit. Ah.
Alors chacun va trouver un petit peu ce qu'il souhaite dans les univers. On a effectivement une bimbo qui pourrait sortir de Blade Runner. On a,
ouais, on n'a pas la même considération de la bimbo, mais ok.
On a le geek qui pourrait sortir des Goonies. On a la petite fille qui fait un petit peu peur avec son bras cyber, effectivement.
C'est toi qui les as définis, ces personnages, ou c'est l'éditeur un peu qui t'a dit, voilà, comment on peut thématiser ?
On a travaillé conjointement avec un illustrateur qui œuvre dans le jeu vidéo, qui a travaillé sur Alone in the Dark, notamment,
et d'accord.
Qui a, je trouve, assez bien restitué cette ambiance de méfiance, de peur. On retrouve le doc qui peut faire penser à Retour vers le futur aussi, j'avais oublié.
Tout à fait, ouais, là j'approuve. Est-ce que c'est vraiment un jeu coopératif où on se dit... alors, il y a 5 niveaux de jeu, donc tu vas me dire, ça dépend. Est-ce qu'on va retrouver... Alors, je suis très axé là-dessus, mais est-ce qu'on va retrouver un peu la méfiance envers les autres ? Est-ce qu'on va retrouver cette... moi, j'aime bien les jeux où, justement, il y a une complète incertitude à savoir si ton coéquipier est avec toi ou n'est pas avec toi. Le felon, c'est une première approche, c'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, on est 5, il y a une personne qui ne participe pas à ça et qui ne va pas dans notre sens. Là, en l'occurrence, si on est un peu plus chacun pour soi, est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que, enfin, pour moi, une partie qui est réussie, c'est une partie où c'est pas le jeu sortir ou ne pas sortir qui est important, mais qu'il y a un climat de suspicion qui s'installe.
Alors absolument, Olivier, ça c'est dans le mode suspicion. C'est-à-dire que quand on joue à 4 ou 6, de 4 à 6 joueurs, on va être sur un schéma où effectivement on ne sait pas qui est qui. Donc, en début de partie, il y a 6 cartes. Dans les 6 cartes, il y a 4 prisonniers, 2 gardiens. Mmh. Donc quand on joue à 6 joueurs, il y a forcément 2 gardiens. Quand on joue à 5 joueurs, il peut y avoir 1 ou 2 gardiens. Quand on joue à 4 joueurs, on va donner que 5 cartes. On va enlever une carte gardien. Une carte prisonnier. Il y a effectivement une nécessité... de céder entre prisonniers, mais comme on ne sait pas qui est prisonnier, il y a un fort doute, une forte suspicion, jusqu'à ce que quelqu'un pousse quelqu'un d'autre et qu'on commence à avoir des indices.
Ça ne dure pas jusqu'à la fin de la partie, il y a forcément un moment où on va savoir...
Oui, alors on a commencé à en parler, mais tu n'as pas fini. Tu ne voulais pas une gestion du joueur et de sa fiche de personnage avec des points de vie ou des choses comme ça. Comment est-ce que tu as traité ça ? C'est-à-dire que...
Chaque personnage est identique en réalité. On a souhaité les représenter différemment pour créer une ambiance et puis que chacun puisse se nommer, tiens, la petite fille, tiens, le geek.
Puisse représenter sur, et que ce soit pas un meeple ou un truc...
Exactement. La thématique était forte. Il fallait donc aller jusqu'au bout dans la réalisation. Et on a donc un système qui permet donc l'élimination, mais sans point de vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez binaire. Soit on est mort, soit on est encore là.
D'accord, parle bien dans ton micro.
Un peu comme dans le film, hein, quand même.
Oui, en fait, les pièges sont...
Les morts sont rapides.
Les pièges ne blessent pas, ils tuent. Ils tuent, ouais, okay. C'est subi.
Donc, j'en reviens à mon idée. si tu sais que c'est vraiment mortel, tu peux te faire pousser dans une salle et puis...
Et mourir, alors, quoi. Si on prend l'exemple de du bain d'acide, le problème, c'est que donc, dans un bain d'acide... Par exemple, quand vous rentrez dans la salle bain d'acide, dès qu'il y a un deuxième personnage qui rentre dedans, le premier entrée tombe dedans. Et donc, quand vous rentrez dans le bain d'acide pour tuer un personnage, pour éliminer un personnage, vous prenez le risque de vous faire éliminer par la suite.
Ouais, par quelqu'un d'autre qui arrive derrière.
Donc, il y a quand même souvent une prise de risque à pousser quelqu'un, sachant que les prisonniers sont plus nombreux que les gardiens. Donc, en général, celui qui pousse est assez vite démasqué.
Ok. Oh, il a pas fait exprès, il n'avait pas vu.
Alors pour répondre à Jérémy aussi sur le quand est-ce qu'on sait qui est qui, ben ça peut arriver dans deux cas de figure, soit le choix délibéré du gardien qui souhaite se révéler, ce qui lui donne la possibilité de ne plus programmer ses actions. Donc il va être beaucoup plus puissant et pouvoir réagir à chaque événement.
Mais se faire pousser dans le bain d'acide.
Plus facilement.
Tiens, toi, mais je te pousse.
Et l'autre cas de figure, c'est lorsque la majorité des personnages du jeu sont arrivés dans la sortie. À ce moment-là, ceux qui ne sont pas dans la sortie révèlent leur identité. Donc on commence à savoir s'il y a un traître potentiel, un gardien, dans le groupe qui se trouve dans la sortie. Puisque pour sortir, il faut être plusieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas sortir tout seul. Donc
la porte est lourde à pousser. Donc,
Il faut être au moins deux ou plus ?
Il faut être la totalité des prisonniers, moins un.
Ouais, parce qu'on accepte un petit quota de perte.
Ouais, c'est ça.
Voilà, on a le droit à une perte, sachant que si on perd un joueur dans les prisonniers, on ne peut sortir qu'au dernier tour. Donc il faut quand même éviter l'élimination, parce que ça va ralentir tout le groupe et lui faire prendre de gros risques.
C'est quand même une contrainte forte, en fait.
C'est dur, non ?
Il faut éviter de mourir, ouais, comme dans la vie.
Mais, non, d'un autre côté, ça veut dire que s'il faut tous les prisonniers, tu ne vas pas pousser forcément les gardiens. Enfin, quelqu'un que tu considères comme un gardien, en te disant, ok, et si c'est un prisonnier, tu perds des chances. Si tu es prisonnier et que tu pousses un prisonnier, tu perds des chances de pouvoir avancer, enfin gagner.
Absolument. Maintenant, plus tu réduis le nombre de joueurs, plus tu sais qui est qui.
Voilà, c'est ça. Alors, comment tu sais, justement, alors, à part les actions que font les autres joueurs, est-ce que tu as d'autres façons de découvrir l'identité des autres joueurs ?
Comme souvent dans les jeux où il y a une traîtrise, il y a des indices qui ne trompent pas, le regard, le visage,
les paroles. Ça va jouer avec nous, ça.
Après,
mais il n'y a pas de manière de mécanique, on va dire, dans le jeu. C'est vraiment uniquement après par rapport au comportement des joueurs.
C'est un choix de comportement, ouais, tout à fait.
C'est la déduction, plus ou moins.
Voilà. Avec la possibilité quand même de révéler les gardiens si trois prisonniers se trouvent dans la salle de sortie.
Très bien.
Ok. On passe à la genèse quand même ?
Je rajouterai une petite règle quand même pour
non,
les gardiens.
Bah non, en fait, non.
Non, toujours pas.
Les gardiens ont deux conditions de victoire. Soit. Ils arrivent à éliminer deux prisonniers.
Deux seuls prisonniers. Deux, ça suffit. Ouais.
Ils arrivent dès que deux prisonniers sont éliminés, les gardiens ont gagné. Et sinon, à la fin du décompte, donc les fameux 10 tours, oui, si les prisonniers ne se sont pas échappés, les gardiens gagnent la partie.
D'accord, c'est asymétrique. Et alors, ça me semble plus facile pour les gardiens que pour les prisonniers.
Non, dans la réalité, on est sur un équilibre assez
d'accord,
fort.
D'accord, ça c'est chouette.
Donc, quand ils sont deux gardiens, je pense que c'est chaud. Hein. Dès que tu as poussé un dans l'acide, tu es repéré. Quoi.
La difficulté, c'est que les gardiens ne savent pas qui est qui. Donc, il faut
et ça pas entre eux. Ah oui, c'est pas comme
dans les loups-garous, non.
Ouais, ou dans Résistance, voilà, où les espions se repèrent en début de partie.
Il y a un doute unilatéral.
Donc tu peux pousser ton pote, ça le savoir. Oh, pardon.
C'est déjà arrivé.
Tu jouais tellement bien que je croyais que tu étais une prisonnière.
Donc un jeu, alors il y a la version féminine, mais je pense que ça prend tout son sens dans ce mode-là. Et c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Enfin si, mais non. Achetez-le.
Alors si vous jouez avec des filles et des enfants, il faut plutôt viser la coopération au départ. En tout cas, pour démarrer, c'est une bonne prise en main.
Surtout avec des enfants, ouais.
Ouais, mais je pense que c'est ce qui manque dans les jeux coop de maintenant. On a évolué et ça, c'est... Bon. Je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas dire, mais ça me plaît bien.
Donc la genèse, tu disais que tu avais les premières idées 2005-2006. Ensuite, les premiers protos. Moi, je me souviens avoir géré un proto il y a 2 ans. Depuis, j'imagine que le jeu a encore évolué. Tu cherchais déjà un éditeur à l'époque. C'était Aeson.
On a trouvé donc l'éditeur Matago il y a un peu plus de 2 ans lors du festival du Corsaire Ludique. Et puis ça s'est confirmé sur Essen où on a pu tester un peu plus en live. Je pense qu'en fait il y avait une volonté de Matago d'aller sur des jeux d'action aussi, comme il l'avait fait avec Shadowhunter. Et le format court est plus en vogue, je dirais maintenant. On n'a pas forcément tous le temps pour des gros jeux, donc c'est ce qu'a dû séduire Matago.
Avant Matago, il y en avait eu d'autres. Enfin, est-ce que tu as galéré pour trouver un éditeur ?
Un petit peu, mais parce que le jeu n'était pas encore optimisé. J'avais d'abord axé le jeu sur du pur coopératif.
C'est mal, le pur coopératif.
Où on jouait contre le jeu avec une part un petit peu chaotique du mouvement du cube, donc des salles. Et ça, c'est une partie que j'ai gommée pour revenir sur quelque chose d'un peu plus tactique où le joueur maîtrise une partie du mouvement du cube.
Mais du pur coop en 2005-2006, c'est assez novateur, par exemple. Il y a eu peu de jeux encore à l'époque. C'est 2008 qui est le tournant du jeu coopératif.
J'avais pas beaucoup de modèles, c'est vrai.
Ouais. Ouais, après, en 2008, il y a 3 jeux qui vont débarquer, avec notamment Pandémie et Ghost Stories, qui vont poser les bases du jeu vraiment coop. Mais avant, ouais, c'était encore peu,
On m'a beaucoup fait des remarques par rapport à des similitudes sur l'île interdite, par exemple.
Oui, mais parce qu'il est sorti après.
Ah ouais, tout à fait.
C'est parce qu'une idée arrive en fait en même moment ou après que l'idée n'est pas venue avant et que voilà.
Non, et puis bref. Je dirais la gestation longue permet aussi de mieux finir son jeu et d'avoir des petites idées en plus. Jérémy, quand tu avais joué il y a 2 ans, on pouvait faire qu'une seule action par tour, donc il se passait assez peu de choses et ça manquait un petit peu de tension. Et là, ouais. Ça, j'y ai réparé.
Est-ce que Dungeon Twister, c'est une de tes inspirations?
Pas du tout, puisque quand j'ai démarré sur Room 25, je ne connaissais pas Dungeon Twister, enfin, je n'y avais pas joué. Christophe Bollinger m'a confié un jour qu'il avait été en partie inspiré, sans le savoir, par Cube.
Oui. Donc en fait, l'idée de départ est un peu la même. Ouais, puisque il y a les colonnes qui changent, des déplacements, et puis tu viens de dire qu'en fait, au début, il y avait plus de mouvements de salle.
Tout à fait. Alors, je dirais que la grosse différence avec Dungeon Twister, c'est quand même que Dungeon Twister est plus sur des rôlistes, avec des combats, avec des points de vie.
Pas de points de vie.
Là où moi, je suis assez radical.
C'est pas le
donc plus court.
Dans les jeux du trône, où tu gagnes ou tu meurs.
Dungeon Twister, tu peux te blesser avant.
Oui.
T'as un petit intermédiaire.
Et l'univers de Dungeon Twister est quand même Heroic Fantasy, là où j'ai clairement opté pour le futuriste.
Ça aurait pu être Heroic Fantasy avec des aventuriers dans un donjon. C'est un choix de l'éditeur ou c'est toi vraiment, c'est ton choix tranché?
Non, c'était mon choix. Et puis, on est allé aussi du côté de la Real TV, c'est-à-dire qu'en fait, la thématique du jeu, c'est un jeu télévisé futuriste ou un peu comme dans Running Man ou Hunger Games plus récemment au cinéma. Les personnages sont filmés et donc il y a un animateur que vous allez retrouver dans les règles qui pimente un petit peu les règles. Et donc l'univers du jeu télévisé, je voulais aussi un petit peu dénoncer le côté voyeuriste des réalités.
À Koh-Lanta.
Voilà, je ne suis pas client.
Moi j'aime bien Koh-Lanta. Les traîtrises, les trahisons. Et puis tu sais, les petits mots devant la caméra. Bref, passons. Ok. Tes rapports avec l'éditeur, c'est-à-dire que t'es arrivé avec un jeu qui était sous une forme X. Qu'est-ce que t'as apporté? On a parlé de la semaine dernière de Kickstarter. Qu'est-ce que ça apporte un éditeur pour un jeune auteur, à part le fait d'être édité?
Ben, ça apporte pas mal de choses. Surtout que Matago n'est pas à son premier essai, donc ils ont une bonne connaissance de ce qui plaît et ce qui plaît pas. Il y a eu beaucoup de questions très précises sur des cas de figure qu'on n'imagine pas forcément quand on est à son premier jeu.
Au niveau de la règle, tu veux dire?
Oui, au niveau des règles, il faut être très précis. Et sur un jeu finalement simple, on est obligé quand même d'envisager tous les cas de figure. C'est aussi vrai à cause du nombre de modes de jeu. 5 modes de jeu, c'est pas tous les jours, donc ça complique un peu la chose.
Combien de pages?
8 pages de règles,
oh,
dont beaucoup d'illustrations. Donc,
5 modes, je trouve que c'est court.
Non, c'est
finalement, voilà, il y a...
Et c'est ta règle ou bien l'éditeur l'a retravaillé notamment au niveau vocabulaire? Je sais que souvent, voilà, c'est ça, les précisions. Voilà.
Excuse-moi, je vais compléter. En quoi le jeu a été enrichi? Alors, la règle, mais est-ce que l'éditeur a amené d'autres idées? Est-ce qu'il a transformé les mécanismes? Jusqu'où il a été, en fait, dans la transformation de ton jeu?
Alors les mécanismes étaient là, ils n'ont pas changé, les salles aussi, les effets des salles, les choix des salles, on en a éliminé une ou deux, mais globalement toute l'architecture était présente.
Il en a rajouté
Pas encore.
Ça sera les bonus.
C'est extension ça.
Ça viendra, on fera peut-être un concours, on verra si ça fonctionne. Et en tout cas, l'éditeur a surtout apporté donc, un travail de mise en page, de clarté des règles, effectivement parfois de vocabulaire, pour être précis et pas sujet aux interprétations. Je pense qu'aussi, la diversité des joueurs qui ont pu tester le jeu, ça c'est aussi quelque chose. Souvent, quand on est auteur, on fait tester à son groupe d'amis ou dans quelques cafés-jeux, mais il y a un public assez précis. Là, l'avoir un éditeur sur Paris, qui l'a fait pas mal tourner dans les festivals, il a tourné à Parthenay, il a tourné à Cannes, il a tourné un peu en Belgique aussi, j'ai appris.
À tourner,
sans doute. Et
bravo.
Et donc on a l'expertise de gens qui sont vraiment passionnés. Matago, c'est aussi ça que j'ai apprécié. Ils gravitent dans l'univers du jeu de rôle, dans l'univers des bouquins aussi. Donc il y a vraiment un apport sur l'univers.
Beaucoup de tests alors.
Pas mal de tests et beaucoup de choix. à beaucoup de moments, on a pu converser, échanger par Skype ou d'autres moyens sur les illustrations, sur les choix graphiques, à la fois de la boîte, mais aussi des tuiles.
Tu as eu ton mot à dire, justement, sur l'illustration. On t'a dit, est-ce que ça te plaît ou est-ce que... Ou alors ils ont dit, de toute façon, nous, maintenant, c'est nous qui éditons. Toi,
non,
t'as
ça
amené
faisait partie du contrat. Dans le contrat Matago, on a convenu ensemble, et ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, de pouvoir quand même maîtriser l'esthétique, la thématique. Et d'ailleurs, je leur ai proposé un illustrateur pour la boîte. Les illustrations des personnages et de la boîte ont été réalisées par un ami lyonnais.
C'est son premier...
Daniel Balage.
D'accord, voilà.
C'est son premier jeu illustré. À ma connaissance, il avait fait un jeu, mais qui n'est pas très connu, je te rappelle, Dragon, il y a très longtemps. Et donc, je pense que ça va lui faire ça va lui mettre un pied à l'étrier.
Ouais, ça, c'est bien. On aime bien avoir les nouveaux talents. Et donc, ouais, sur la règle, l'écriture de la règle, c'est toi à la base, forcément. Après, l'éditeur l'a revue pour le dernier tirage, ou bien...
En fait, de manière à la rendre concise et précise, il y a un gros travail de réorganisation des idées pour la partie mise en place et bien distinguer ce qui est commun à tous les modes de jeu et ce qui est spécifique à un mode de jeu.
Et ça, c'est Matago qui amène sa connaissance là-dessus ?
Absolument. Même si, je dirais, on peut le faire bien soi-même, un éditeur va vous aider, va vraiment le faire de manière propre et probablement optimisée.
D'accord. Il y aura une fac.
Donc, merci à Matago. Et il y aura une fac. Ils ont déjà mis les règles en ligne sur PDF, donc sur leur site, Matago. Vous pouvez également trouver un peu d'explications sur le jeu sur une page Facebook, Room 25.
Il n'y aura pas un site pour promouvoir le jeu. Tu sais, comme ils ont fait, par exemple, avec Steam Torpedo ou comme
non,
Edge, je n'hésite pas à propulser ces jeux.
Je sais qu'il y aura un petit teaser bientôt, là, en vidéo. Je vous laisse le découvrir sur Internet bientôt.
Et demain, tu fais la Trick Track TV, donc
voilà,
actuellement, tu es un peu en tournée promo, bientôt sur France 2.
Non, je n'ai pas cette prétention.
Donc, ça veut dire qu'on pourra retrouver la Trick Track TV de Room 25.
Avec une partie
très
en mode
bientôt.
Suspicion à 4 joueurs, si
tout va bien. Bah, méfie-toi de Fall, alors. Ok, donc le gros intérêt de l'éditeur, quand même. Est-ce que c'est une galère ou comment tu définis ton parcours ? Ça a été dur, c'est
long, je pense. Non.
Oui, en fait, c'est pas mon premier jeu. Il y en a eu d'autres qui ont connu des parcours plus difficiles, qui sont encore dans les cartons. En fait, il y a la fameuse le premier rendez-vous. Enfin, faut oser aller voir l'éditeur.
C'est toujours un problème le premier rendez-vous.
Il n'y a pas le speed dating du jeu encore.
C'est parfois délicat.
T'es joué aux éditeurs.
Non, je pense que, et là, il faut donner je tire mon coup de chapeau au Corsair Ludique. C'est un festival donc, en Bretagne qui permet quand même une vraie rencontre dans un cadre très détendu, estival, pour rencontrer des éditeurs et montrer son proto avec un temps certain, ce qui n'est pas possible dans un salon comme Essen. C'est très
quand tu dis un temps certain, tu es sûr qu'il pleut ?
Non, mais en Bretagne, il pleut qu'une fois par
la durée et pas de la météo, bien entendu.
Okay.
Donc le contact, c'est vraiment fait au Corsair Ludique.
Ouais, il faut si vous avez un jeu et que vous voulez le porter, il faut vraiment connaître, enfin aller rencontrer les gens, pas forcément leur envoyer votre proto par la poste, mais le faire tourner et confronter des idées des gens qui sont autour de vous. Et puis le montrer justement. Oui, pardon.
Essen se prête bien aussi à ce genre de rendez-vous. Il faut prendre les rendez-vous. Par contre.
Ouais, je recommande quand même fortement le off de Cannes pour les Français. C'est quand même c'est devenu un rendez-vous majeur, je pense, pour montrer son proto.
Que vous soyez, que vous ayez des visées d'édition ou pas, vous soyez joueur, c'est très 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 bien d'aller faire le off de
si
Cannes.
Vous avez un remix entre le Trivial Pursuit, non, le Monopoly et le jeu de loi, c'est pas la peine.
Envoyez-le à Croc.
Envoyez-le à Croc, il adore. 5 par jour, il adore. On pourrait pas faire sauver le monde, envoyer 10 exemplaires par jour d'un Monopoly, jeu de loi à Croc.
Un petit mot sur Vassal Forge qui m'a permis en fait de peaufiner le jeu Room 25 avec d'autres auteurs, Arnaud Urbon par exemple, qui était déjà récidiviste chez Matago. Donc Gaëtan Bojano, qui est un ami, s'occupe de Vassal Forge et m'avait invité à tester le proto comme ça en ligne, en circuit fermé, c'est-à-dire qu'on s'inscrit. Et
c'est via leur studio, la DED, au développement des jeux ?
Absolument, ouais, ça a pris pas mal d'essor depuis. Il a tourné sur Vassal Forge sous le nom de Cube il y a un peu plus de 2 ans. Donc. Mm-hmm. Et donc, ça m'avait permis d'avoir des avis de gens un peu experts, un peu pros sur les améliorations possibles, sur le manque de tension, voilà, sur ce genre de choses. Et donc, un grand merci à Vassal Forge. Et je crois que maintenant, ils en sont à une dizaine de jeux sur le point d'être édités. Donc, je leur souhaite beaucoup de succès.
On les avait interviewés il y a un an, justement, sur toute cette partie-là.
Tout à fait. Et donc, ils ont un bon réseau maintenant d'éditeurs et ils se sont fait connaître par leur talent, à la fois sur le côté mise en ligne, puisque c'est quand même pas mal de travail de programmation. Et même si ça nécessite pas mal de manipulation, c'est quand même bien pour un auteur de pouvoir faire tester à des gens qui sont...
sans envoyer de proto.
Voilà, ça évite de se déplacer aussi.
quand tu dis ça demande de la manipulation
Oui, il y a pas mal. C'est pas de la programmation systématisée. Donc, en fait, il faut vraiment, c'est du drag and drop systématique.
Ouais, non, c'est genre, je fais les manipulations telles que tu les ferais sur le plateau, mais tu les fais sur
l'écran. Exactement. Donc, c'est parfois un peu poussif, surtout à 6 joueurs avec les déconnexions Skype.
D'accord. Ça marche très bien, Skype.
À 2, mais peut-être pas à 6.
Non. Donc, on va rappeler quand même le jeu. Donc, non, le jeu s'appelle Room 25. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, édité par les éditions...
1 à 6 joueurs.
c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, édité chez les éditions Matago, pour entre une demi-heure et une heure.
Oui, on met 30 minutes parce que c'est la moyenne.
Et à partir de 10 ans, 10-12 ans.
Oui, plutôt 10 ans, on va rester sur 10 ans.
10 ans, et puis c'est une boîte qui n'est pas très gros, donc 25
euros. Oui, autour de 25 euros, même si les magasins font ce qu'ils veulent.
Voilà. 25 minutes, 25 euros.
Rappelle, 25 joueurs. Bazar, 13%. 25%, non, 13%. Très bien, bah écoutez, moi je ne connaissais pas, malgré les communiqués de presse qu'on a dû m'envoyer. j'avais pas cette impression du jeu, et effectivement, moi le côté coop, ça se fait partout. Le côté coop plus suspicion, on parlait en off de Battlestar Galactica où on ne sait jamais, et je trouve que c'est ce qui fait le sel du jeu, c'est de se dire lui je le sens pas, je vais le pousser, et faire en sorte que on porte la suspicion vers quelqu'un d'autre, et que nous on soit un vilain et qu'on fasse pousser quelqu'un d'autre par un de ses coéquipiers, moi j'adore.
En sachant que tu auras une petite compétition à Edson, puisqu'il y a les chevaliers de la table ronde, jeu de cartes, qui a un format pareil, 20-30 minutes.
Ouais, c'est ça.
Et avec tu peux te faire long, plus lettres, etc. Je suis très impatient aussi de découvrir celui-là de jeu. En fait, les jeux de coop comme ça, pas trop. Enfin, avec des faits longs, c'est bien, ça rajoute. Ça donne vraiment une ambiance autour de la table, ça donne vraiment une dynamique au jeu, c'est une excellente tendance.
C'est juste un petit peu sympathique, quoi, tu vois. C'est
ça. Avant, on se poutrait à travers les enchères, bon, mais c'est pas tout le monde qui aime les jeux d'enchères. Maintenant, au moins, c'est immersif en plus. Voilà, on est impatient de découvrir ça à Essen.
Essen 2012, donc octobre, fin octobre, dans toutes les bonnes boutiques.
Et même les autres
Oui, c'est distribué par Asmodée, donc on devrait le trouver un peu partout.
Dans le numéro 34A, on vous avait parlé de Get Beat, donc de Croc. Et je sais que Jérémy, vous voulez vous en parler un peu plus en profondeur, donc on va en profiter.
Vous voulez voir avec François aussi
cette semaine.
François aussi, on va lui demander un jeu à présenter, un jeu qu'il aimait bien.
Absolument, donc si vous voulez compléter vos boîtes de Lego, vous pouvez acheter Croc, il y a 6 petits personnages, alors c'est un peu plus grand qu'un Lego.
Ah, c'est toi qui y présente ?
Bah, on peut présenter les deux.
Non, mais si François est là, il va servir, attends. Ah ouais, moi déjà, j'adore l'embossage, ça manque de boobs, mais c'est cool.
Ah, c'est une boîte, c'est Bombix, donc c'est boîte métal style...
Timeline.
Style Timeline.
Et voilà. Timeline, il y a des boobs.
Alors, c'est un jeu qui est très rigolo sur la thématique déjà, puisqu'on va être... On va avoir des cartes avec des petits nageurs et il y a un requin qui va venir à chaque fois, à chaque tour, croquer une jambe, un bras.
Ami Réunionnais,
il a faim quand même.
Ami Réunionnais, je sens que tu vas aimer ce jeu.
Absolument.
Ah, c'est un jeu.
Le principe du jeu, il est très simple. Alors, c'est pour. C'est normalement pour 2 à 6 joueurs, mais on y reviendra. C'est plutôt à partir de 4 joueurs.
Jeu d'apéro ?
Ouais, ça se joue vite, hein, ça joue en 10 minutes.
Ouais, c'est un format apéro, boîte métal.
Donc en fait, on aligne les pirates de manière aléatoire au début, en file indienne. Les joueurs ont des cartes de 1 à 7, ils en choisissent une en simultané.
Qu'est-ce que t'appelles aléatoire ?
On choisit.
Parce que moi, si je suis à la fin et près du tour requin, je veux pas y être.
Bah, c'est que t'as pas eu de chance au tirage. Bon, c'est pas très gênant, au premier tour, tu te fais pas croquer.
Ah.
Donc on les aligne. Donc les joueurs d'écart de 1 à 7, ils en choisissent une simultanée. Ensuite on les révèle pareil en simultané et on résout. Celui qui a joué la plus petite valeur prend son pirate et le met au début de la file et ainsi de suite. En sachant que si on a joué une carte de même valeur qu'un autre joueur, les deux cartes s'annulent et donc du coup les pirates ne sont pas déplacés. Donc c'est risqué parce que du coup on va être plus près du requin. Voilà, c'est en fait c'est le principe qu'il y a déjà dans Stupide Vautour, qui est un autre jeu un peu
très
différent.
Très bon jeu de Alex Randolph.
Mais qui est très bien aussi et pareil, donc avec la notion des cartes de valeur identique qui s'annulent. Voilà, et à la fin du tour, le joueur qui est le plus près du requin, bah, il se fait croquer un membre. Donc jambes ou bras au choix du joueur ou c'est... de qui veut être sadique.
Excuse-moi, c'est jambes ou c'est pieds et jambes?
Non, c'est jambes ou bras. En fait, d'accord. Les bonhommes, donc ces petits bonhommes tout articulés en plastique, on peut démonter les pieds, les mains, mais...
On entend les petits...
Ouais. Les petits clics.
Les os qui craquent.
Voilà. Ça, c'est le côté fun du jeu, en fait. On démembre comme ça les personnages, c'est très drôle. On peut me l'enlever à la tête. Mais non, dans le jeu, on enlève que les jambes et les bras. Et le joueur qui a été croqué ensuite récupère toutes ses cartes et on replace son pirate en tête de file.
Voilà, donc celui qui perd a un petit bonus, on va dire.
Ouais, il a un bonus.
Il a moins de membres, mais il est avantageux.
Ce qui est très difficile à gérer, c'est la fin de partie, puisqu'à partir du moment où un pirate se fait croquer et qu'il en reste plus que deux, deuxième, instantanément, il est croqué. Donc c'est-à-dire que quand on n'est plus que trois pirates, il faut vraiment s'arranger pour être toujours en tête.
D'accord.
Ça demande une anticipation sur le jeu des cartes. Donc dans les règles, c'est très simple, c'est jouable dès... Je sais pas, le jeu est marqué à partir de 7 ans.
À 6 ans, ça marche bien.
À 6 ans, ça marche. Par contre, ils vont pas comprendre les subtilités des choix. Ma fille commence toujours par jouer la carte 6. On le sait, maintenant je l'ai pris en compte. Quand elle s'est fait croquer et qu'elle va jouer, je sais qu'elle a déjà joué un 6. Donc
ça va de combien à combien les cartes ?
1 à 7.
Non, à 7.
Et pourquoi je joue 6 ?
C'est comme ça, je sais pas. Elle joue systématiquement aussi. On pourrait croire que c'est basique dans les choix, mais en fait, pas du tout. Il faut à la fois savoir.
On a le droit de regarder ce qui est tombé quand même. Hein.
Oui, les cartes qui ont été jouées les tours précédents sont visibles.
Non, c'est pas qu'un jeu de mémoire. Alors ça
bien, heureusement. Ouais. Il faut improviser, enfin, il faut quand même deviner ce que vont jouer les autres.
Oui.
Mais il faut savoir se garder, pas jouer toutes ces grosses cartes au début. Sinon, ok, au début, on va survivre, mais les derniers tours, on va pas. Il y a de fortes chances qu'on se fasse croquer un membre.
En fait, c'est même bien de se faire croquer un membre quand on manque un peu de cartes.
Oui, c'est ça.
Pour lâcher savoir... un petit peu. Hein,
il faut savoir se faire croquer au bon moment.
Il faut lâcher du lest.
Voilà. Et avec la règle un peu particulière à la fin qui fait que. C'est seulement le pirate qui est mieux positionné quand le troisième se fait croquer qui gagne, que du coup il peut très bien gagner alors qu'il a qu'un membre et le deuxième il avait encore regardé tous ses membres mais
ouais,
il est à la deuxième position et voilà.
L'important c'est vraiment de survivre et pas d'être le mieux en meilleur état à la fin de la partie.
Non.
Et alors la petite particularité quand même dans l'édition c'est qu'ils ont mis des petits stickers donc on peut personnaliser ces petits personnages, ça plaît beaucoup aux enfants. Il y a des pirates
un zombie.
Qui font peur, d'autres qui sont plus mignons.
Alors ouais parce qu'à la base le jeu est sorti en 2007 donc chez Mayday Games donc aux États-Unis seulement, il était disponible en France en import mais c'était à 25€, c'était un peu cher. Les bonhommes articulés c'était les mêmes mais effectivement ils étaient tous monochromes.
C'était pas
très
aussi
beau.
Joli en fait.
La bonne idée de Bombix, bah, déjà c'est d'avoir relooké les cartes, la boîte, c'est beaucoup plus.
La bonne idée de Bombix, ça a été de piquer l'idée de Cocktail Games, c'est de faire des boîtes métal.
Aussi.
Et rose avec des boobs.
Celle-là, ouais.
Voilà.
La bonne idée c'est les stickers, parce que non seulement il y a des stickers, mais en plus il y a deux planches de stickers, donc on peut vraiment personnaliser comme on veut. Il y a plus de stickers que de bonhommes. Donc chaque jeu sera différent. Par contre, je pense qu'avec le temps, les stickers, bah, ils vont...
Ils s'en vont.
Alors, ils vont s'en aller. Les personnages féminins plaisent beaucoup à Olivier, je crois.
Ouais.
Ouais. Mes enfants, ils n'ont pas choisi.
Pourtant, ils ne sont pas en maillot de bain.
Je vous mettrai la version Poison Ivy sur le site.
Voilà, c'est tout.
Très bien, donc vous recommandez ?
Ah oui, parce que ça vaut quoi ?
Ça vaut moins de 15 euros.
Je pense que ça vaut moins de 15 euros.
C'est ça.
Ça peut se jouer partout, mais ça ne prend pas de place.
Et ça vous fait un requin aussi en Lego.
Il y en a un dans Dr. Shark.
Donc,
Croc, avec un point d'exclamation, est paru chez
Bombix.
C'est un jeu de Dave Schulker, illustré par Xavier Collette et Vincent Poulard. Ou Poulard. À peu près 15-20 minutes. À partir d'eux, ils mettent 7 ans, eux, mais peut-être un peu plus si vous voulez qu'il y ait vraiment un petit peu de challenge pour 3 à 6 joueurs.
Là, c'est pareil, plutôt à partir de 4 joueurs. 2-3 joueurs, ça va. Il va falloir jouer avec deux bonhommes, c'est pas évident à gérer.
Et ben. Disponible actuellement dans toutes les bonnes boutiques. Si vous êtes nouveau dans le hobby, c'est un jeu qui peut, à l'image de Stupide Vautour, tu m'as dit. Donc je pense que c'est vraiment bien pour commencer dans le jeu de société, c'est une valeur sûre. Et François, tu voulais nous parler de Lemming Mafia.
Lemmings Mafia.
Lemmings.
Pourquoi Lemmings ? Eh ben parce qu'en fait, on va être sur un petit parcours avec ces personnages qui sont des mafieux. Mais à la fin du parcours, ils vont se jeter à l'eau Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est Lemmings.
Et c'est un rapport avec le jeu vidéo des années 90.
Bah oui, il se suicide.
Il se jette donc à on l'eau. Se suit, c'est ça.
Alors, on ne se tire pas dessus comme dans le jeu vidéo, mais on se suicide puisque c'est des personnages suicidaires.
Parce d'accord. qu'à la base, le Lemmings, c'était un animal. Il va mais se jeter à l'eau.
C'est un animal à la base.
Mais c'est qui va vraiment se jeter du haut des falaises. Bon, ouais. C'est une légende urbaine, mais.
Pourquoi ?
On dit que quand c'est en surpopulation, ils le devinent, ils vont se jeter spontanément du haut des falaises, en troupeau.
Ouais. Alors, nous, on le fait la guerre.
C'est bon, là, voilà. Façon.
Et donc, alors, le but du jeu ?
Alors, Lemmings Mafia, c'est un jeu à objectif secret. Alors c'est quand même un jeu de course, donc on va plutôt avantager son personnage. Et il faut deviner un petit peu comme dans Top Race, il faut deviner qui va arriver en premier.
Tu veux dire qu'en fait les pions sont de couleur sur le plateau, mais on ne sait pas quel joueur a quelle couleur.
Parlez bien voilà. dans le micro s'il vous plaît.
On peut déplacer. On va jouer les dés pour déterminer quel pion on peut déplacer. Donc il y a deux dés, donc on peut déplacer deux pions si on ne fait pas la même couleur. On peut déplacer deux pions. On a un choix. Donc on ne joue pas un personnage en particulier. Par contre, dans ses objectifs, on va avoir, un petit peu comme dans Viva il Re, par exemple, on va avoir intérêt à déplacer, à faire avancer plus vite un pion ou un autre, sachant que dans les cases sur lesquelles on va atterrir, il va y avoir un effet. Et,
le jeu de loi ?
Un peu comme au jeu de loi. on peut par exemple atterrir sur une case ciment et donc se retrouver avec un petit pion de béton sur son personnage.
Ah mais c'est drôle en fait.
C'est assez drôle, c'est une thématique assez fun.
Facile à expliquer aux enfants.
Et on peut aussi, on peut aussi éliminer les pions, puisque dès qu'on a trois bétons, on est éliminé, ouais, voilà, ouais. On coule. Donc un béton ça va, deux bétons ça craint, trois bétons, c'est fini.
C'est bonjour les dégâts. Un béton ça va, trois bétons, bonjour les dégâts. Ok, donc c'est un jeu court d'apéro.
C'est un jeu d'apéro, c'est un jeu pour enfants, parce que effectivement les illustrations sont très... très
enfantines.
Très toon.
Un peu BD non ?
Très toon. Et pourquoi Mafia ? Bah, parce qu'en fait les objectifs secrets sont des contrats. On peut aller négocier avec le parrain pour enlever un contrat si on s'aperçoit qu'on ne va pas tenir son contrat. Donc on a trois contrats en début de partie, mais on peut en avoir plus qu'un à la fin. Et si on ne fait pas son contrat, les points du contrat vont être retranchés.
Ouais, un peu comme Aventure du Rail. Mmh.
Voilà.
Donc l'intérêt est à négocier les contrats. Quoi.
Voilà. Donc y a quand même de la tactique, même s'il y a une part de chaotique à cause des dés.
Concrètement, ça se passe comment de négocier un contrat ?
Non, tu tombes sur une case par un et tu peux retirer un contrat. Ah. Tous les joueurs ont le droit d'enlever un contrat.
Donc c'est assez léger en fait.
C'est léger, très léger.
C'est fait pour jouer les enfants, ouais. Et le nombre de joueurs ?
On peut jouer jusqu'à 6.
Ouais, ils mettent 3 à 6, mais plutôt
4-5. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de monde autour de la table sur ce genre de jeu. Ouais.
Ça rajoute au chaos, non ?
Bah, surtout ça permet d'équilibrer parce que ça veut dire quasiment tous les contrats sont distribués, donc chacun a intérêt à faire évoluer certains personnages. Ça équilibre.
Lemming Mafia, c'est un jeu de Michael Rinek, donc l'auteur de Santiago de Cuba, dont on vous a parlé la semaine dernière. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, mais jouez-y à plein. Pour des gens de 8 et plus, donc pour des enfants, un jeu familial, et pour une durée de partie d'à peu près 20 minutes.
Il a eu le Games Magazine Award de 2012 aux USA.
Bravo.
On ne sait pas ce qu'il donne comme prix ce magazine.
Mais est-ce qu'on passerait pas aux écrans
déjà,
de
allez,
ce
soyons
fait fous. À partir ouais, de 50 aller. Minutes, on peut peut-être se dire que comme on veut faire une heure, on va peut-être passer aux écrans maintenant. Donc on vous rappelle, on s'engage, comme ça on le fera peut-être la semaine prochaine, un petit diptyque Seasons avec le jeu de société expliqué. Et puis le jeu de plateau, le jeu sur écran, on va vous dire où est-ce que vous pouvez y jouer. Et cette semaine, Jérémy, de quoi on parle ?
Alors moi, j'ai prévu de vous parler de Qui l'a vu ?
Qui l'a vu, mais on en a parlé déjà, Qui l'a vu ?
On a dit qu'il était sorti, je vous avais promis une review dans cet épisode, donc voilà.
Tu y joues, toi ?
Moi, je ne l'ai pas vu, Qui l'a vu.
Tu n'as pas testé ? Qui l'a vu ?
Pas encore.
Ah, tu connais le jeu plateau, quand même.
C'est ça,
les auteurs de jeux, ils n'ont pas le temps de tester.
C'est ça, ils jouent à leur jeu, mais pas au jeu des autres.
J'attends de voir les visuels.
Non, Qui l'a vu, c'est un jeu de Rainer Knizia qui est quand même paru en 2007 chez Ravensburger, qui est arrivé en France un ou deux ans après. Il a même gagné le Kinderspiel, donc le prix du jeu pour enfants, en 2008. Et c'est déjà un classique dans les familles allemandes.
Avec un dragon ?
Non, ça c'est le deuxième de Roberto Fraga.
Où est-il?
Une chouette.
Ah, moi j'ai joué la suite Fraga, je suis plus francophone.
Mais c'est où est-il?
Où va-t-il?
Où va-t-il? Voilà.
Ils ont fait un troisième qui est sorti, qui était dans les nominés du Spiel. C'est deux jeux qui utilisent très très bien.
Qui a gagné le Spiel cette année. Ouais.
C'est vraiment quelque chose à suivre parce que c'est des jeux qui utilisent très bien la technologie.
Qu'il a vu, il te donne des informations.
Voilà, des informations. Qu'il a vu, tu as des informations. Mais si tu veux, c'est un bon support, tu vois. On parlait de l'iPad, ben là, c'est vraiment très bien. Et donc, le portage de Qu'il a vu sur iPad pour 3,99€.
Voilà, ou sur iPhone à 2,39€. Mais j'ai testé la version iPad pour vous.
Il vaut mieux, à mon avis.
Ouais, je pense. Voilà. Alors, le jeu, je rappelle, c'est un petit jeu qui joue de société, qui joue avec des enfants à partir de 6-8 ans, en 25 minutes à peu près. C'est un jeu où il va falloir trouver des indices. En fait, il faut retrouver une bague. Il faut trouver qui a volé la bague pour retrouver la bague. Et donc, il y a une dizaine de suspects. Il va falloir interroger les animaux du château qui vont donner des indices pour éliminer petit à petit des suspects et trouver le voleur.
Ouais, d'abord, on va te dire tel animal veut tel fruit, voilà, ou légume.
Pour qu'il parle, il faut quand même l'amadouer, c'est un animal. Hein, donc, il faut lui donner, voilà, par exemple, des carottes.
Et après, il va te dire que tu as une dizaine de personnages qui ont des chapeaux, qui sont des femmes, qui ont des machins. C'est-à-dire, ouais, bah, celui qui a piqué la bague n'a pas de chapeau. Voilà. Donc tu vas éliminer ceux qui ont des chapeaux. Un peu à la manière de Qui est-ce.
Le tout dans un temps limité, enfin un nombre de tours limité.
Et avec des niveaux de difficulté, on peut élever un petit peu la difficulté au fur et à mesure qu'on apprend à jouer.
On a grandi le château.
Ouais, à l'aise.
Avec des pièces plus difficiles d'accès. Donc les joueurs, bon, de toute façon, ils n'ont que quelques actions possibles. Hein. Ils lancent le dé, ils se déplacent un nombre de cases. Quand ils arrivent sur la case où ils arrivent, il y a toujours un animal dans la pièce où ils se trouvent. Et ils peuvent fouiller la pièce ou alors ils peuvent donc discuter avec l'animal. Et dans ce cas-là, pour que l'animal parle, il faut lui donner l'objet qui l'attend, enfin la nourriture qui l'attend. Donc, au préalable, il faut fouiller les pièces pour trouver les aliments. Et aussi de la magie au milieu, bref. Le portage, il est vraiment à l'image du jeu de société. On retrouve les mêmes visuels, on retrouve les mêmes voix. Mm-hmm. Tout ça, c'est impeccable. Ils ont même rajouté une petite partie un peu plus interactive. C'est une excellente idée. Ils sont allés plus loin que le simple portage. Ils se sont dit, bah, tiens, on va lancer le dé. Donc, on prend le dé, puis on le fait glisser sur l'écran. Puis, il y a le dé qui tourne sur l'écran.
Et est-ce que si tu le lances...
Le fantôme, c'est super chiant.
Si tu lances 10 000 fois, est-ce que le dé, tu sais, t'es sûr que...
Je sais pas. Moi, des fois, je lance 4 fois d'affilée, je fais 4 fois fantôme. Je pleure.
C'est les probabilités, ça. C'est pas...
Ouais. Alors, le problème, c'est que dans le jeu, donc après, il y a l'animation du fantôme qui se déplace.
On n'a pas parlé du fantôme. Le fantôme, c'est un petit peu l'élément perturbateur. Il y a un fantôme qui va se déplacer, qui va parcourir les salles du château et qui vont empêcher les enfants.
Qui ramène les enfants à chaque fois dans une pièce de départ, la chambre.
D'aller au plus vite, en fait.
Voilà. Donc, ouais, donc en sans dé, j'ai quand même fait souvent j'ai fait le fantôme, bon, tant pis. Et puis, quand on fouille et qu'on doit trouver, par exemple, la pomme, on voit le zoom sur la salle et il faut trouver où est la pomme. Voilà, donc ça rajoute une petite côté, un petit côté comme ça, interaction en plus. Par contre, ils n'ont pas rajouté de prise de notes possible. Ce qui aurait été beaucoup plus facile sur un terminal comme celui-là. Ils n'ont pas mis de. C'est dommage, moi je trouve le prise de notes. Alors, il y en a qui, moi je joue avec une petite tête de jeu, il y en a qui n'aiment pas la tête de jeu. Moi j'aime bien de pouvoir cocher que le dragon il veut les carottes et pas autre chose. Ou surtout que j'ai donné les carottes au dragon, parce que là dans le jeu on ne sait plus à qui on a donné ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment que de la mémoire.
Je savais pas que les dragons aimaient les carottes.
Ouais, c'est par exemple, ouais, il peut aimer les champignons ou le morceau de pain.
Ou la pomme.
C'est voilà.
Et par contre, nain et l'elfe, non.
Non, il y a pas. Et les enfants peuvent, par contre, du coup, sur l'iPad, peuvent prendre en main tout seul le jeu. Déjà comme le jeu de société, ceci dit, hein, c'est comme le boîtier fait tout, fait toute l'animation du jeu, il y a pas de problème. L'avantage de la version iPad, ben, c'est que la boîte de qui l'a vu, elle est grosse. Prendre la place sur l'étagère, c'est très bien pour jouer chez soi. Moi, je préfère jouer sur une version plateau. Par contre, dans le TGV, on prend l'iPad.
Elle coûte 10 fois plus cher aussi.
Ouais, il faut les piles.
Non, mais sur ton iPad aussi,
L'iPad, il faut l'avoir chargé avant. À noter qu'il y avait un bug sur le boîtier, moi, de mon qui l'a vu quand tu vas dans l'horloge et que tu fais la tour et que tu fais la magie, ça marche pas. Ça dit nous ne pouvons. Des fois, donc nous ne pouvons.
Okay. Nous ne pouvons.
Nous ne pouvons. C'est tout. Bon, j'ai jamais su la suite, donc au moins maintenant, avec la version iOS, on peut. Et à noter aussi, ils ont rajouté un mode où l'iPad, le jeu iPad, pour remplacer ton boîtier si tu jouais avec le jeu de plateau normal. Je sais pas ce que les gens reprochent au boîtier, peut-être le son qu'ils entendent moins bien, j'en sais rien. Donc on peut jouer avec le boîtier. Voilà, à noter aussi une petite notion de succès, mais pour moi ça n'a pas, c'est pas très, c'est pas l'intérêt de ce portage. Donc 3,99€, en plus je trouve le prix correctement calibré par rapport à la qualité du portage. À savoir que j'ai eu quelques plantages sur mon iPad 1, mais c'est parce que c'est un iPad 1 et que beaucoup de jeux plantent sur iPad 1.
Mmh. Oui, bah ça c'est.
Problème de gestion de mémoire en fait qui est limité.
Ouais, bah c'est un problème quand même en fait.
C'est les iPad 1, c'est pour ça que je signale. C'est.
Oh, waouh!
La plupart des gens ont des iPads
2. Hey, ton iPad il a 2 ans. il n'arrive pas à gérer les jeux. Oh là là, il est vieux.
Et il n'est pas compatible iOS 6.
Ouais.
Voilà, mais c'est pour signaler, mais c'est
bref.
Peu de gens ont des iPads. Voilà, donc 3,99€. Si vous ne connaissez pas le jeu de plateau, bah c'est pareil, un bon moyen de les découvrir. Si vous avez déjà le jeu de plateau et que vous connaissez toutes ces bonnes valeurs, et bah sachez que vous les retrouverez entièrement sur l'iPad et qu'au moins, ça vous permettra de l'emmener en vacances.
Et puis, dernière petite chose dans ce numéro 34B, je voulais vous parler de Color Pops. Est-ce que vous connaissez Color Pops ? Un jeu qui est sorti en jeu de plateau chez Gigamic.
Qui inspire d'un jeu vidéo, et ça
tout
fait
apparaître
des petites...
Tout à fait. Donc l'idée, c'est que vous allez avoir une grille avec des points de couleur. L'idée, c'est qu'on a chacun, ça se joue à deux ou plus, et on a chacun une couleur, et il doit rester le plus de pions de notre couleur à la fin. Et de la même façon, on peut enlever des lignes de points. Et donc, on va restreindre le champ jusqu'à ne plus avoir du jaune, du bleu, du vert.
C'est un objectif.
Pardon ?
Il faut qu'il n'y ait plus qu'une couleur à la fin.
Ben, ta couleur, en fait. D'accord. Et qu'il y ait le plus de points de ta couleur à la fin. Alors, c'est d'une portée ludique assez limitée. Alors, pourquoi je m'en parle ? Parce que ça apparaît sur BGA. Alors, ils ont fait Seasons. Essayez-le si ça vous intéresse, parce que c'est un très bon jeu. Vous pouvez aussi jouer à Color Pops en attendant d'avoir vos adversaires préférés, vos complices en ligne pour faire une partie de Seasons, mais ça s'arrête là.
Donc, t'as pas joué à la version plateau, enfin genre normal, t'as joué à la version que en ligne. Quoi.
Oui, que en ligne, et il y a deux fois. Alors, vous pouvez jouer sur BGA à Color Pops, et en plus, tu as écrasé ma note, je pense, parce que j'avais mis une petite URL. Vous pouvez aussi y jouer en ligne contre une IA. Et donc, prendre en main le jeu, bon, c'est 15 secondes à la prise en main du jeu. Et sur le site de l'éditeur, je pense, je vous mettrai ça sur le blog. Je vous rappelle l'adresse podcast.proxy-jeu-x.fr. L'idée, c'est que c'est rigolo, mais ça ne va pas plus loin. Et surtout, si vous êtes sur VGA, que vous avez créé un compte pour jouer à Color Pop, c'est bien jouer à Seasons.
Juste, il nous reste encore 5 minutes là.
Ouais, 5 minutes, ouais.
Tu voulais nous parler de Magic 2013 sur iPad, François, un peu ? Ou
tu sais que
ça te fait replonger dans Magic ?
Absolument, ouais. J'ai acheté Lotus Noir la semaine dernière.
Lotus Noir ?
J'ai vu que c'était ressorti massivement avec une belle nouvelle édition et une application sur iPad gratuite pour la partie initiation, on va dire.
Ouais.
Ça a un petit peu changé, mais on n'est pas complètement perdu non plus. Donc. En tout cas, je vous le conseille parce que je dirais qu'ils ont mis les moyens, on a des très belles illustrations et ils ont réussi à faire quelque chose d'assez fluide malgré la difficulté du jeu pour un novice.
Mais en fait, c'est Magic Planeswalker, donc c'est une version allégée de Magic. Il y a surtout des cartes communes, il n'y a pas les cartes, il n'y a pas plein d'effets, la pile d'invocation, enfin plein de piles, la pile de gestion des sorts, etc.
Ouais, ils ont fait un choix effectivement éditorial de rester assez léger quand même sur les cartes proposées. Il faut que je passe à la version complète pour vraiment juger de la pertinence, mais
avec les DLC.
Ça m'a l'air assez sympa quand même.
Parce que c'est gratuit, ça fait quand même 1 giga, hein, je vous préviens déjà. Prévoyez 1 giga, iOS 5 minimum.
Retina display.
Ouais, compatible Retina
display. C'est sans doute pour ça que ça fait si lourd en fait.
Je suis ravi d'avoir 1 giga sur
ton iPad 1.
Ouais, sur un iPad, sur un iPad à 16 giga, voilà,
ça.
1 giga qui est parti. Et surtout, donc c'est gratuit pour essayer, mais si vous voulez acheter le jeu complet, c'est quand même 9,99€.
Oui, c'est un investissement, mais bon, pour des joueurs de Magic, c'est rien du tout.
Non, et ceci dit, c'est moins cher que sur Xbox.
C'est de booster.
Il existe aussi sur Xbox 360, PS3, etc. Sur le PSN, mais ils sont à chaque fois, ils sont plus chers, ils sont à l'équivalent de 15€. Et il y a par contre les extensions. Tu vas craquer après. Il y a des DLC en plus. Là, il y en a déjà un qui est sorti. Donc, à 3,99€ pour acheter des cartes, des challenges, des decks.
Ouais, c'est le risque d'avoir vraiment une grande campagne de Magic sur Apple.
Est-ce que vous savez si, dans quelles conditions on peut avoir les cartes ? Est-ce que c'est des cartes communes ou est-ce qu'il y a
c'est quand même beaucoup de communes
ou, dans quelles conditions est-ce que tu as les moyens de construire un paquet que tu veux ? C'est-à-dire, est-ce que c'est comme dans les boosters Magic de base, tu vas avoir peu de rares ? Ou alors est-ce que tu peux dire, je vais faire le jeu cheaté de mes rêves où je vais pouvoir mettre toutes les cartes que je veux et mettre même les rares en 4 exemplaires ?
Au début, tu commences avec un deck qui t'est préétabli, qui est préconstruit pour
60
toi.
60 cartes, voilà.
D'accord, mais non, ce que je veux dire, c'est.
Beaucoup de communes. Et après, tu vas, au fur et à mesure, tu vas gagner tes duels, tu vas gagner des cartes. Mais tu n'auras pas des grosses cartes super puissantes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des effets trop compliqués à gérer dans l'interface, etc.
Oh, oh bah bravo.
Tu ne pourras pas non plus construire des decks tels que tu vas les construire pour un tournoi. Ouais, tu ne vas pas jouer en mode Legacy sur, sur Planeswalker.
D'accord, d'accord. C'est quand même très cadré comme.
C'est
comme
un Magic plutôt light. C'est agréable, en fait, quand on. Bah, comme François. Quand on redécouvre Magic, moi aussi je m'étais laissé aller au premier Duel of Planeswalker sur Xbox quand il est sorti il y a quelques années. Après, si vraiment vous avez, enfin si vous avez déjà joué à Magic, vous replongez avec ça. Je vous le dis tout de suite, allez retourner jouer au tournoi, c'est vraiment plus sympa. Surtout que plein de boutiques organisent régulièrement des événements. Après, il y a les moyens de jouer à Magic pas cher, ça on pourra en parler dans un autre épisode.
Eh ben, moi, je joue avec des decks. On a des choses à dire.
Ouais, bah, ça je peux en parler. J'adore.
Bah, écoute.
Donc, mais par contre, pour des rodés, voilà, si vous ne connaissez pas Magic, vous pouvez le découvrir à travers cette application, effectivement. Mais ça remplacera jamais un jeu avec un adversaire en vrai et qui aura vraiment buildé un deck beaucoup plus compétitif.
Parce que là, c'est contre une IA. Le jeu de base, c'est contre l'IA.
Oui, tu joues contre l'IA. Il y a possibilité, quand tu achètes la version complète, de jouer en ligne.
De jouer contre d'autres joueurs, mais tu vas pas avoir des decks super poussés, je pense.
Non, probablement pas. À creuser.
Alors, si vous ne connaissez pas Magic, ou si vous connaissiez Magic dans les années 90 et que vous avez eu des enfants entre-temps, vous pouvez vous faire le plaisir de décharger un giga gratuitement, c'est ça ?
Oui, il est gratuit, absolument.
Et puis commencer à redécouvrir les cartes et puis à retrouver...
Il y a un bon tutoriel d'ailleurs, hein. C'est tout
ça,
en
c'est
français.
Pas mal, ça, parce que
la prise en main est impeccable.
Les règles de Magic, elles changent tous les ans, donc c'est bien de savoir avec quelles règles on joue.
Sur la V3. Là.
La V3.
Sur la troisième majeure règle
par rapport à quelle année ?
Par rapport à 93.
Mais ça va d'accord. Plutôt dans le sens de la simplification. Il n'y a plus des interrupts, il y a plus, enfin c'est un peu plus.
Ah
simple.
C'est nul.
Ah oui, toi t'as pas joué depuis les années 80. Ouais. Il y a eu déjà d'autres changements.
Il y a eu un gros
règle,
gap.
Ouais. Ouais, la V3. Avant la 2.
Il y a eu la V2 de la règle qui était 240. Un peu l'effet Matrix quand il y a les combats, c'est-à-dire que les créatures s'infligeaient mutuellement leurs blessures, elles pouvaient disparaître entre temps. Enfin, c'était compliqué à gérer. Ils ont simplifié tout ça.
Ouais, ouais. Donc si vous ne connaissez pas Magic, c'est une erreur. Je vous conseille vraiment c'est le grand ancien des jeux de cartes, c'est la source de toute
attention, c'est très addictif et ouais. Ça peut entraîner des grosses dépenses aussi.
Ouais.
C'est surtout chronophage parce qu'il y a moyen de jouer gratuit mais beaucoup de temps.
Oui, en fait dans la construction, c'est l'avant-jeu qui dure longtemps, c'est-à-dire qu'on peut passer des heures à préparer son deck.
Mais ça c'est le plaisir aussi du jeu. C'est le plaisir d'avoir les cartes étalées devant soi et de dire je vais prendre celle-là et celle-là et celle-là.
Et puis voilà. Ça marche pas en fait.
Et c'est l'ancêtre du deck building en fait.
Oui, voilà. Carrément.
Voilà, donc comment ça s'appelle ?
Magic.
Magic 2013 sur
tout
iPad.
Simplement.
Magic 2013, c'est un jeu de Richard Garfield qui est disponible sur iPad pour 0€. Enfin, si vous aimez bien, après ça vous en coûtera 10. Et ça fait 1 giga.
Il touche encore Garfield ?
De quoi il touche ? Non, il a revendu tous ses droits à 0€ il y a quelques années. Mais je pense qu'il les a bien revendus.
Sausade. Eh bien voilà, le 34B est fini. Merci beaucoup, François.
Merci à vous de m'avoir invité et puis au plaisir.
En tout cas, moi, ça m'a bien fait envie. C'est pas parce que t'es là que je le dis. Enfin, vous avez peut-être compris que j'attendais un jeu coop un peu plus mature où on se fait des crasses C'est peut-être ça. On fera le débrief de toute façon quand on le
rendez-vous rentre. À Essen, Olivier, pour une partie sur le stand Matago.
Bravo. Bien sûr,
oui,
sans problème.
On y sera.
On y sera. Et en plus,
merci Jérémy.
Je vous rappelle que on a décidé unilatéralement. Jérémy a décidé unilatéralement qu'on ferait un petit reporting des scènes
tous les soirs.
Tous les soirs. Voilà, putain. Et on l'a dit, donc on va le faire, même si ça prend du temps.
On a rien d'autre à faire. Le soir.
Et puis oui, c'est
entre la bière et la bifi.
Entre la bière et une bifi à la main, je vais encore pas dormir pendant 4 jours. Et voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous conseille vivement, mais vraiment très très vivement, d'écouter le crossover Bazincast avec Croc. Je me suis surpris. À l'enregistrement, c'était un petit peu chaotique. Et en fin de compte, la réécoute, c'était vraiment très intéressant.
Il y a quelques trolls chez Bazincast. Mais...
Il y a quelques trolls, crée-le si tu m'écoutes. Et puis voilà, donc dites-nous ce que vous pensez. Si vous avez des retours sur Room 25, vous l'avez essayé en prototype, si l'idée vous plaît, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'édition, vous pouvez nous laisser des questions. Vous pouvez poser des questions à François dans les commentaires du site, il y répondra. On verra ce qu'il y réponde.
Je m'y engage.
On a beaucoup de retard sur le 33, qu'on va rattraper notre retard avec le 34. On va essayer de prendre le rythme, et puis voilà. Donc, en attendant d'avoir cette régularité, on vous dit à bientôt, et en attendant, jouez bien.